présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Va frapper à la chambre de Clive. Entrez. Il entre. Clive est encore au lit, avec un pyjama de soie bleu clair. Il est délicieux. Le Jean-Jules lui dit : Mon jeune ami, j'ai reçu une missive qui me demande d'aller à Rome. Sa sainteté veut absolument me voir. Avant, je dois aller à Paris voir monsieur le Franc-Blanc. Pouvez-vous m'accompagner, s'il vous plaît, pour ce voyage? Pourrons visiter Paris et je vous présenterai sa sainteté le pape qui adore les jeunes gens et vous bénira. Avant Paris, vous verrez les Franc-Blancs et je vous présenterai son fils Gilbert, qui est un garçon charmant. Cliff sent que s'il accepte, M. de Jean-Jules va s'accaparer de sa vie, malgré lui, et en fera son homme de compagnie. Cliff n'a pas envie d'une chaîne qui le retient à quelqu'un, même si elle est en or et même si ça ne fait pas mal. Alors il lui dit, non, je ne peux accepter. J'ai à voir mon ami qui est à l'hôpital. Il se trouve à Lyon. C'est pour ça que je suis là. Et il n'y a personne. pour qu'on vienne le voir. » Jésus lui dit, « Je comprends. Alors, vous pouvez rester ici le temps de votre séjour à Lyon, et même jusqu'à ce que je revienne, parce que c'est mieux que jusqu'à ce que je revienne ici. Vous êtes en sécurité, la ville n'est pas sûre du tout. » Monsieur de Jésus a peur que Cliff parte, car si Cliff est ce qu'il croit, il faut qu'il le garde avant que l'on sache s'il est vraiment ce qu'il croit. Et s'il est vraiment, il faut faire ce qui doit être, le former et le mettre à sa place. Cliff lui dit, « Je vous remercie, je veux bien rester chez vous le temps que je reste à Lyon. » Jean-Jules lui dit, « Restez, je vous en prie. » Et jusqu'à ce que je revienne, Cliff lui dit, « Bien, je peux rester si ça vous fait plaisir. Merci. » Monsieur Jean-Jules se sent soulagé. « À tout à l'heure. » Il sort de la chambre. Il va prévenir les domestiques. Il faut que Cliff reste chez moi et le surveiller. Il faut absolument qu'il ne lui arrive rien. Parce que s'il lui arrivait quelque chose d'important, ce jeune homme nous est très précieux. Si nous perdions, s'il lui arrivait quelque chose, ce serait terrible pour notre monde. Domestiques, les domestiques lui promettent qu'on le surveillera. Il sort, il faut absolument savoir où il va et le surveiller discrètement. Il faut absolument pas qu'il lui arrive quelque chose. Et Monsieur de Jean-Ju prépare son voyage. Et accompagné de Cliff, il rentre dans sa robe et chauffeur pour aller jusqu'à la gare de la Pardieu. La place devant la gare est remplie de SDF. De santé, l'encombrant, les magasins, les restaurants sont fermés, les arrêts bus ont été détruits, les rails rouillés, défaits, pas plus de tramway ni de car, tout est défoncé. Centre commercial de la Pardieu n'est plus qu'un temps de ferraille. Il a pris feu. L'intérieur de la gare est tout délabré. Il y a plein de gens qui zonent, qui dorment, des voleurs, des prostituées, des personnes ivres ou droguées. Les gens sont sales, très sales. Il y a plein de graffitis de toutes sortes, des affiches collées n'importe comment. Et des affiches pour l'affichage libre. Comme les trains sont tous à vapeur, ça noircit bien entendu la gare. Monsieur de Janjou, accompagné de son chauffeur et de Cliff, va jusqu'au son quai. Jean le regarde d'un air moqueur. Ce vieux distingué, bien habillé, qui a un chauffeur habillé en chauffeur et qui porte une valise de cuir en de prix. Ils voient aussi Cliff et se disent que ça doit être son petit-fils. Ça fait rire les pauvres de voir les gens riches. Ils aiment s'en moquer, surtout lorsqu'ils sont en groupe. Peut-être pour pas avoir mal de ne pas être comme eux. Ils accompagnent M. Djangy jusqu'à son quai. Des hommes, des femmes de tous âges, Charles et déglingués, les suivent. On leur rit après. De Janjou et son chauffeur ne font pas attention à ça. Cliff, ça le gêne. Enfin, le train arrive. Monsieur de Janjou dit au revoir à Cliff. Surtout, prenez bien soin de vous et restez bien chez moi. Faites chez vous, vous serez très bien. Vous savez que Lyon est dangereux, c'est la capitale des anarchistes. Alors, soyez sage. Je vous le promets, monsieur. Et merci pour tout, Jean-Jean. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Et il entre dans le wagon. Le chauffeur dépose sa valise. Et le train s'en va. Monsieur de Janjou fait des petits signes de la main pour leur dire au revoir. Puis, Cliff s'en retourne. Reste chez Monsieur de Janjou. Il est un peu gêné à cause des domestiques. Un après-midi, il va voir Frédéric qui est encore à l'hôpital.
Entrez.
Bonjour. Cliff lui dit, t'en as mis du temps à revenir me voir. Cliff va s'asseoir près du lit. Il dit, je m'excuse, mais m'est arrivé des choses. J'ai rencontré un vieux monsieur qui m'héberge. Comment allez-vous? Frédéric lui dit,
bien mieux, je souffre presque plus.
Mais qu'est-ce que c'est que ce vieux?
Un monsieur que j'ai... qui semble très riche, et comme je l'ai aidé à se relever, il était tombé dans le parc, alors il m'a invité chez lui et même acheté des fringues.
Frédéric lui dit, félicitations, mais fais attention tout de même.
ne vous faites pas de soucis. Et puis, je partirai bientôt. Vous quittez l'hôpital quand ?
Je pars dans une semaine, à peu près. Et ensuite, je vais me reposer chez mes parents. Pour me reposer un petit peu.
Cliff lui dit, c'est bien, vous allez où ?
Du côté du Havre. J'ai passé toute ma jeunesse là-bas. C'était bien, la mer, les bateaux. Oh, les bateaux ! Les vieux ne font que de parler du plus grand bateau du monde, du plus grand paquebot du monde qui a été construit pour aller au 6e continent. Vous savez, ce continent construit de toutes pièces, voire Imani. Eh bien, le matériel qui était construit pour ce continent était fabriqué au Havre et transporté en mer par les bateaux qui étaient construits au Havre aussi. La ville travaillait à cette époque pour cette aventure 24 heures sur 24. On entendait jour et nuit le bruit des machines. La Dieppe Compagnie avait construit des usines pour ça. La population de la ville avait augmenté de 10%. On avait construit de nouveaux quartiers et il y avait aussi des magasins pour les ouvriers. C'était formidable. Des fonderies travaillaient sans arrêt pour faire des poutres, des métals. Tous les jours, 3 bateaux partaient pour livrer du matériel sur le lieu où devait naître le 6e continent. Tu te rends compte, un continent fabriqué de toutes pièces. Il y avait aussi pour les ouvriers qui travaillaient là-bas, des fins de semaine ou les congés, 2 fois par semaine, 2 bateaux faisaient l'aller-retour pour le personnel, pour qu'ils puissent rentrer chez eux et retourner à leur lieu de travail vers le 6e continent. Et puis, les bateaux amenaient aussi, après, une fois que le 15e continent était fait, les colons là-bas. On a construit une cinquantaine de paquebots, rien que pour ça. Mais le plus beau était le Titan, le plus grand bateau du monde. Personne n'avait vu un bateau aussi grand, aussi beau. Sa hauteur dominait toute la ville. Tout le monde était émerveillé par lui. Et on allait le voir en famille sur le quai. Il était immense. C'était un vrai spectacle que de le voir, de le contempler, avec ses grues géantes autour de lui, et la nuit, tout illuminé. Cliff lui dit, devait être extraordinaire ce temps, mais que reste-t-il maintenant de tout ça ? Frédéric lui dit, plus rien. Les nouveaux quartiers ont été vidés, les usines aussi, ça a rouillé, ça s'est débraillé, délabré, je veux dire. Les bateaux ont été transformés pour l'armée ou détruits. Et le 6e continent a été englouti. Là, c'était la catastrophe. Plus rien. Il ne reste plus rien du 6e continent. Le Havre est devenu une ville morte. Enfin, c'était le temps des Dieppes, ces vieux, tout ça.
qu'il lui dit, c'est bien triste. Oui, le port est rempli de ferrailles, de machines abandonnées, rouillées. Lorsque j'étais enfant, j'allais avec mes copains sur le port, un vrai port fantôme. Je montrerai des photos où je suis avec mes sur le port et des photos de mes grands-parents qui ont photographié du temps du sixième continent. Tu verras tous ces bateaux sur le quai. Cliff va voir Frédéric jusqu'à son départ. Et il l'accompagne en taxi jusqu'à la gare. Ils se disent au revoir et dans un mois. Cliff se dit qu'il a encore un mois à attendre avant de retrouver sa radio, la petite Valérie et ses copains. Pour le moment, il va rester à Lyon. Après, il verra. Monsieur de Jean-Jeu, qui n'est toujours pas revenu, me téléphone tous les jours au domestique pour avoir des nouvelles si tout va bien. Sans le dire bien entendu à Cliff pour ne pas le gêner. Cliff ne se rend pas compte qu'il est surveillé. Mais on le soigne bien. Il y a tout ce qu'il lui faut. Des vêtements propres, bien à manger, et s'il est malade, on téléphone au bon docteur Morel, ami de monsieur de Jean-Ju. Bon docteur Morel, spécialiste des adolescents, qui a créé une mixture pour eux et les femmes. Cliff, l'après-midi, je vais faire un petit tour en ville pour visiter un peu Lyon. Lyon est bien délabré. Je dirais une vieille ville, genre année zéro, mais même en plus délabré. Bien sûr, il y a quelques endroits, des oasis, comme où habite monsieur de Jean-Ju, mais c'est de plus en plus rare. Un après-midi, il se promène sur les pentes de la Croix-Rousse. devant une rue étroite et sale. Il y a des enfants en guenille qui jouent dans le ruisseau. Ils marchent, courent. Les immeubles sont délabrés. Il y a du linge aux fenêtres. Les rues sont pavées et sales, ça sent mauvais. Ça donne un côté 19e. Il y a peu de magasins. Et puis la plupart sont abandonnés. À part quelques épiciers arabes dégueulasses et des cafés. Jean Frollo, 1950, petit et sale. Passant devant un café, la porte s'ouvre et tombe nez à nez et, en le cognant, a failli le faire tomber. Un homme de taille moyenne, cheveux gris en broussailles, tête osseuse, habillé d'un vieux costume gris taché et d'une chemise qui a été blanche. L'homme dit à qui ?
Pardonnez-moi, j'ai failli vous faire tomber.
Il lui dit : Non, ça va.
Je vous ai cogné.
Et l'homme, avec ses deux mains, lui frotte sa veste comme pour lui enlever la santé. Puis lui dit
« Ça va, monsieur, merci. »
L'homme le prend à l'épaule. Il semble éméché, a les yeux rouges. Il dit
« T'es mon pote, toi. Allez, viens, je te ferai boire. »
Il lui dit
« Merci, pas la peine. »
L'homme va pour ouvrir la porte du café et lui dit
« On ne refuse pas l'invitation au Christ. »
Voir merveilleux monsieur bébé. Cliff panique et se sent poussé dans le café. La pièce est petite, sale, mal éclairée. Il y a quelques vieux qui sont à table, à siroter. Le cafetier qui est à sa banque, la cigarette au bec, gros, chauve, habillé d'un pull gris dégueulasse et d'un tablier gris aussi sale, essuie méticuleusement un verre avec un torchon qui n'a pas changé depuis plus de 10 ans. Le verre, il l'a trempé dans un seau d'eau qui a une couleur rouge-marron et sent bizarre dans son seau. Le cafetier lui dit
« T'es de retour, Robert ?»«
Oui. » J'ai rencontré un pote.
Cartier lui dit,
mais toi, ta table, je t'ai pas enlevé ton verre.
Robert prend à l'épaule Cliff et le mène à une table de bistrot genre 1950.
Elle est tachée et il y reste encore deux verres. Robert lui dit,
mais voilà, ça c'est mon verre. L'autre, c'est Georges qui a bu dedans. Il crache ses poumons. Alors, je ne vais pas boire dans son verre. Pas foule, Robert.
Le bistroquet va à eux, en traînant les pieds, il demande.
Comme d'habitude, Robert lui dit, oui.
L'homme, avec son torchon qu'il a sur l'épaule, prend le torchon et donne un coup au verre de Georges et donne le verre à Cliff. Le pauvre Cliff, il a envie de vomir. Le bistroquet s'en retourne. Il revient avec une bouteille en plastique de vin Marnia de 2 litres.
Robert lui dit, tu mets ça sur mon compte.
Et ce qu'elle dit, comme d'habitude. Et il s'éloigne. Il ne peut pas refuser de faire crédit à celui qui donne sa vie à militer pour les pauvres. Ça lui prend tellement de temps qu'il ne peut pas travailler. Il est vrai qu'il reste tous les matins et les après-midi au café, mais il milite. Robert fait le service.
Cliff lui dit, je n'ai pas soif.
Robert lui dit,
on refuse pas. Refuse pas un bon Marnia. Ça, c'est du bon. Ta bonne année. Allez, bois. Tu vas m'en dire des nouvelles.
Cliff, dégoûté, trempe ses lèvres. Robert lui dit,
vas-y, carrément. Ça n'a jamais fait de mal. C'est du bon, je te dis. Allez.
Cliff boit son verre, dégoûté. Il a envie de vomir.
C'est dégueulasse.
Ça a un goût de feuilles et de médicaments.
Tu vois, c'est bon.
Il lui en sert encore un. Robert boit et se sent bien. Il lui dit,
ça fait du bien. C'est bon. C'est bon pour la santé, ça. Je te dis, je suis le Christ des pauvres. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai eu une illumination et j'ai vu que ce que je faisais, c'était comme le Christ, tu vois.
Cliff lui dit, oui, il en a marre et veut s'en aller. Robert lui dit,
je suis comme lui et veulent les riches, moi. Et je ne travaille pas pour annoncer la bonne parole, tout comme le Christ. J'aime voler les riches, c'est-à-dire leur faire, leur prendre, pour faire l'équilibre, leur prendre ce qu'ils ont et les donner aux pauvres, c'est-à-dire à moi.
Il se sert encore un verre et sert le pauvre Cliff qui en a marre. Il veut s'en aller et puis ce vin lui donne mal à la tête. Il se lève et dit, je veux m'en aller. Le père aussi lui dit,
tu t'en vas déjà?
Oui, j'ai affaire.
Attends, je vais t'accompagner un bout de chemin.
Il le prend à l'épaule. Et ils sortent ensemble.
Oh.
Robert a des difficultés à marcher. Je tiens bien au pauvre Cliff, Robert lui dit.
J'habite la rue à côté, là. La rue de la Grande Côte. Viens chez moi, je te présenterai la Vierge Marie.
Cliff lui dit, j'ai pas le temps.
Et tu dis, tu peux pas me laisser comme ça, avec ma sciatique. Tu ne peux pas monter les escaliers.
Cliff se dit, c'est parce qu'il est ivre.
Bon, je vous accompagne jusqu'à chez vous. Après, je vous laisse.
Tu es un chic-tique, toi. Pas comme mon fils, qui est un salaud fasciste nazi. Il a trahi sa famille en se mettant du côté des faiseurs de misère et de la répression révolutionnaire. Tu te rends compte? Le fils du Christ qui trahit le Christ et sa mère. Un vrai Judas, celui-là. Tu te rends compte? Toi, tu n'es pas comme lui. T'es un propre petit.
Et lui fait un gros mimi mouillé et puissant à Cliff sur la joue. Ça le dégoûte. Robert le mène à une rue étroite qui monte. Elle monte sur les pentes. C'est délabré, pavé, des immeubles démolis, les magasins fermés. Seul un café est ouvert. Il y a des gens louches et sales qui traînent. Des enfants squelettiques qui jouent sont sales et en loque. Ils traînent dans les rues, certains n'ont plus de parents et personne pour s'occuper d'eux.
Père fait rentrer le pauvre Cliff dans l'allée d'un vieil immeuble délabré, sale, étroit. Il est fait très sombre. Il monte les étages en faisant attention de ne pas se casser la figure à cause des saletés qui traînent. Ça sent mauvais. Arrivé à un étage, Robert sonne à une porte. La porte s'est ouverte et apparaît une vieille femme, cheveux gris en désordre, petite, grosse, le visage laid et méchant. Il manque des dents sur le devant. Elle porte une vieille combinaison rose, sale et trop courte pour elle. Elle a des charentaises en laine bleue. Elle dit, tu pourrais pas ouvrir, non? Il lui dit, non. T'as pas la clé?
Je sais pas.
Elle regarde Cliff et lui dit, c'est qui cette marchandise? C'est pour le garder, ça? Ça rapporte rien.
Robert lui dit, c'est un pote.
Et dit à Cliff,
voilà la Vierge Marie.
Bon, eh ben, je m'en vais vous laisser.
Robert lui dit, tu vas pas partir comme ça. On n'est pas des sauvages, non. Allez, entre.
Il entre. Et Robert ferme la porte.
Cliff tremble de peur au milieu de ses Thénardier. Elle demande à son mari, qu'est-ce qu'on en fait?
Il lui dit, t'occupe. On va boire un bon coup pour le remercier de m'avoir ramené ici, comme tous les soirs, chez ma sciatique. Et sans lui, j'aurais pas pu monter ici.
La pièce est sombre, sale. Il y a une table de cuisine remplie de saleté, des chaises pleines de linge et autres, un buffet qui déborde de tant de choses, un évier en pierre avec de la vaisselle sale qui déborde aussi, une douche dans un coin de la pièce avec un rideau transparent, ce qui fait que l'on voit tout. Et il y a une porte qui donne à une autre pièce. La fenêtre a une patte rouge qui sert de rideau attaché à une corde.
Tiens, assieds-toi à table.
Cliff s'assoit à table. Lui s'assoit aussi. Et dit à sa femme,
« Va nous chercher à boire. »
Elle va prendre sur l'évier une bouteille en plastique et trois verres sales. Elle apporte la bouteille qui est entamée. Déplace les saletés qui sont sur la table. Dépose les verres et fait le service. Elle leur dit, c'est frais. J'ai mis la bouteille sur l'évier. Tenez. Merci. Cliff est dégoûté. Une fois qu'elle a fait le service, elle s'assoit entre le mari et Cliff. Le vieux boit.
C'est bon, j'avais soif. Ça donne soif de venir jusqu'ici. C'est loin et haut.
Elle lui dit, ah, pour ça, oui. Mon mari et moi, ça fait des années qu'on est ici, depuis notre mariage. On a même un fils, un feignant et un bon à rien. Il ne voulait pas travailler et en plus fréquentait des fascistes. Même un flic, vous vous rendez compte? Robert dit,
le comble, ma femme s'est fait piquer par les flics, parce qu'elle avait volé au marché une montre de luxe de marque Disney, une montre Mickey. J'ai fait faire une manif pour qu'on la libère dès que j'ai su qu'elle était de garde. Eh bien, ce salaud, il n'a pas été à la manif. Il était avec son copain nazi. Quel salaud! Maintenant, il a foutu le camp. Je sais pas où. Il a disparu pendant qu'on était en tôle pour un cambriolage raté chez un vieux dégueulasse qui couchait avec mon fils. On ne sait plus ce qu'il est devenu, mais c'est tant mieux.
Voir Monsieur Bébé. La femme lui dit,
oh, un sacré salaud!
Robert boit. Mais un temps et dit,
il est temps que j'aille dormir. J'ai mal au foie. Ça me fait mal, sans doute le chocolat.
Il se lève difficilement et va à l'évier où il y a de la vaisselle. Sur l'évier et vomit.
Oui.
il a vomi dans l'évier. Il prend le torchon pour s'essuyer la bouche et dit « Ça va mieux, ça soulage. » Puis fait dégoûter. Robert va dans la pièce à côté. Pauvre Cliff. Ça pue le vin dans la pièce. La vieille dit. Vous voulez manger un morceau? Cliff dit. Non, merci. Elle lui dit. Ça dérange pas. J'ai du saucisson au frais sur l'évier. Cliff a envie de vomir. Il lui dit. Je veux m'en aller. Elle lui fait. Mais non, restez encore un peu. Elle lui prend la main et la lui met sous sa chemise. Lui dit, vous savez, je suis du produit de luxe, moi. J'ai été séduite par de la haute. Oui, je peux vous le dire, mais mon fils François n'est pas ce que vous croyez. C'est pas de mon mari, mais d'un homme bien. Alors, si vous voulez, elle lui prend la main et la monte entre les cuisses. Elle lui dit, c'est pour les riches, ça. C'est pour la route. Allez-y. Cliff est dégoûté. Retire la main. Il a l'impression de vivre un cauchemar. Il se lève. Elle aussi. Elle lui dit, j'ai été... trop vite, attends, tu vas manger avec nous. Elle va à l'évier, ouvre le robinet, pour passer sous l'eau une assiette, pour enlever le vomi. Oui, pour passer sous l'eau de la tête pour enlever le vomi. Cliff en profite pour sortir de l'appartement. Et quitte cette rue. En se jurant de jamais y retourner. Il rentre chez monsieur de Jean-Jus. Oui, chez monsieur de Jean-Jus, ce havre de paix décide d'aller se coucher. Les domestiques sont surpris. Cliff leur dit, j'ai mal à la tête. Les jours passent. Sort toujours, mais évite les pentes du premier arrondissement pour ne pas retrouver Robert. Un après-midi, il se trouve dans une rue du troisième arrondissement.
nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Caire. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.